Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue. Émission Top Gun, lundi 9 mars 2026, enregistrée dans le feu de l'action ce lundi matin avec des alertes rouges données sur le plan technique, sur le prix du pétrole. Pas encore sur le prix du gaz européen. D'ailleurs, je vais être précis pour vous dire exactement quel type de gaz il faut regarder. Nous allons faire le tour d'horizon de tous les actifs financiers concernés. En fait, globalement, de toutes les classes d'actifs. Le marché actions, le marché des taux, le marché des changes, le marché des matières premières, des indicateurs alternatifs. Je vais reprendre avec vous des indicateurs de transport maritime. Ça se tend sur le prix d'un indice de référence de transport maritime chinois, coté donc à la bourse de Shanghai. Les secteurs, l'aérien, le secteur pétrolier, le secteur de la défense. Je passe tout en vue, bien sûr, le contrat futur S&P 500, le VIX qui est en train de dépasser une résistance. Le contrat futur S&P 500 qui fait un gap. L'amplitude de la hausse du prix du pétrole qui ressemble donc au début du déclenchement de la guerre en Ukraine. Les fondamentaux, j'ai deux slides qui me serviront d'introduction pour répondre à la question « Y a-t-il un risque systémique pour l'économie mondiale ?» Là, attention, moi je vais apporter de la nuance. Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu puisqu'il y a un facteur qui est très incertain qui reste le facteur temps. Puisque tout ce qu'on peut décrire, tout ce qu'on peut mettre en avant comme un chiffre compliqué en lien avec le détroit d'Hormuz qui est complètement fermé, il y a un facteur inconnu, c'est le temps. Déjà, certains chiffres, la contribution... Alors, le détroit d'Hormuz est le numéro 1 parmi les 10 détroits du monde qui comptent le plus dans le commerce mondial, dans l'économie mondiale. Mais ce n'est pas non plus systémique au point de dire que c'est 50% de l'approvisionnement mondial en pétrole, 50% de l'approvisionnement mondial en gaz, ou encore certaines matières premières importantes, même agricoles, vous allez voir. Mais tout de même, les chiffres comptent. Alerte rouge sur le plan technique. Le marché action US, les stars de la tech qui corrigent enfin. Un marché, par exemple, qui est un marché comme le Kospi, la Corée du Sud, très tech, fait moins 6 cette nuit, mais il faut voir d'où il part. La hausse était verticale, moins 6 après une hausse verticale, ce n'est qu'un retracement, il fallait bien un prétexte à cela. Donc ça allait arriver. Alors est-ce que les choses restent sous contrôle sur le plan technique ? Je passe avec vous en revue tous les seuils. Je vous donne les chiffres clés sur le plan des fondamentaux. Pas de blabla, on est dans le fond de l'action. Vidéo réalisée ce matin, lundi. Oui, parfois, vous avez remarqué, souvent, j'enregistre. Thomas, il est dans le live tous les jours. Moi, j'interviens deux fois par semaine, lundi, mercredi. J'essaie de faire des dossiers. J'enregistre souvent 3-4 jours à l'avance. Là, eu égard à la volatilité actuelle et à l'information qui arrive en permanence, je fais du temps réel. Enfin, du temps réel. J'enregistre, je publie. Voilà, donc là, c'est fait. Ce lundi matin, si ça vous plaît aussi de temps en temps que je refasse ça, donc... Le lundi matin, j'enregistre en réel, je publie. Mettez-moi un petit like de soutien. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun, alerte rouge sur le plan technique.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. C'est parti, bourse, alerte rouge sur le plan technique. Vous avez sous les yeux tous les actifs que nous allons passer en revue. Pétrole, gaz européen, or, dollar américain, les obligations, le franc suisse. Bon, le franc suisse, le forex de manière générale. S&P 500 VIX, les bourses asiatiques, les actions du secteur de la défense, compagnie pétrolière, compagnie aérienne, les secteurs du transport maritime, les bourses du Moyen-Orient, la valeur aussi du rial iranien. Beaucoup de choses. Je commence par deux slides fondamentaux et ensuite nous passons au tour d'horizon technique. Principal, alors la crainte, c'est le sujet du moment, la crainte du risque systémique. Alors, moi j'essaie toujours d'avoir une approche nuancée parce que c'est facile, là, tout le monde peut le faire, la fin du monde, troisième guerre mondiale. J'ai regardé, vous imaginez pas le nombre de vidéos qui explosent sur YouTube, ça y est, la troisième guerre mondiale a commencé et ça fait 1 million de vues, tout le monde est là, tout le monde est à fond, c'est sûr, troisième guerre mondiale. Ben voilà, qu'est-ce que je... Enfin bref, bon. Alors effectivement, il faut reprendre les choses, j'ai essayé d'imaginer... Deux façons de synthétiser là où se situe le risque et là où il ne se situe pas. Première chose, le facteur temps. Le facteur temps, personne ne le maîtrise. Tous les chiffres que je vais vous présenter là, avant de passer au tour d'horizon technique, puisque la vidéo c'est quand même bourse, alerte rouge sur le plan technique, tous les chiffres là que je vais vous présenter sont des chiffres qui ont un impact important. Mais dans cet impact important, il y a le facteur X, donc c'est le chiffre multiplié par X. X, c'est le temps. Et ça, bien sûr, c'est pas connu. Il y a une différence si le pétrole se maintient au-dessus de 100 dollars pendant 2 semaines, 3 semaines, avec se maintenir au-dessus de 100 dollars pendant 3 mois, se maintenir au-dessus de 100 dollars pendant 6 mois, etc. Je ferai d'ailleurs ce mercredi une émission Fast and Forex, davantage concentrée justement sur cette histoire d'inflation, de la réelle contribution directe et indirecte de l'énergie au calcul de l'inflation et aussi au facteur temps. Et vous allez voir, je vais vous rappeler que vous additionnez les effets directs et indirects du pétrole et du gaz, vous n'atteignez même pas un cinquième du calcul de l'inflation. Mais tout de même, ça compte, bien sûr que ça compte. Et de toute façon, ça maintiendra l'inflation au-dessus de la cible de la Fed. Le sujet est là. Alors, principale matière première est bien systémique transitant par le détroit d'Ormuz. Beaucoup parlent du pétrole et du gaz, à juste raison. Première chose, je commence, je vais dans le désordre. J'ai présenté les informations comme ça, je vais dans le désordre. Tout d'abord, le gaz naturel liquéfié. Alors, vous avez pu lire, ci et là, effectivement, que le détroit représente 20 à 25% du GNL. Alors déjà, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle. 20 à 25% du GNL, c'est pas 25% du gaz mondial. Le gaz naturel liquéfié, de manière générale, le gaz, quand il est produit, il est consommé dans les environs, dans la région. Le GNL, c'est le gaz qu'on exporte. C'est le gaz qu'on met dans les bateaux. C'est le gaz qu'on transporte par bateau, transport maritime, et qu'on exporte. Voilà. Ce GNL représente 20% du gaz mondial. Le détroit, lui, représente 20% du GNL. Donc vous faites 20% de 20%, ça fait 5. Tout de suite, c'est différent. Donc le détroit, c'est 5% du gaz mondial, et pas 25. Mais c'est 20% du GNL. Ok, première chose. Donc, mais ça reste important. Ensuite, le pétrole. Le détroit, pareil, il y a beaucoup de chiffres tombent. 50%, 40%, un quart, non. Le détroit d'Ormuz, c'est 15% de la consommation mondiale de pétrole. Pourquoi 15 alors que la région en produit 22%? Je serai beaucoup plus précis sur ces chiffres mercredi dans le Fast and Forex. Là, c'est un résumé rapide et puis on passe au tour d'horizon graphique. Pourquoi 15%? Parce que une grande partie du pétrole qui est produit dans le Golfe peut contourner le détroit par des pipelines. Et cette partie qui peut contourner le détroit d'Ormuz est estimée à 7-8%. En fait, c'est la capacité des pipelines. Alors, il n'y a pas que le pétrole et le gaz. Il y a aussi donc les engrais azotés, méthanol et certains alcools issus donc de la pétrochimie. Donc, plastique de base, résine, aromatique et aluminium primaire. Vous avez ici donc la part du détroit dans le commerce mondial de l'ensemble de ces matières premières. Et effectivement, donc 5 à 10% pour l'aluminium, pétrochimie 5, 10 à 15% du marché maritime mondial. Donc, on n'est pas sur du 50%. Mais nous sommes quand même sur 10 à 20% de ces matières premières dites stratégiques. Donc forcément, oui, ça a un impact sur le prix. Je continue. Alors, l'idée, en fait, c'est d'avoir en tête ces données fondamentales pour mettre en perspective les signaux techniques qui sont donnés. Alors après, chacun juge les signaux techniques qui sont donnés comme trop forts, pas assez forts, étonnamment résilients, pas résilients. Bon, peu importe. De toute façon, le marché action allait s'en manger une du fait qu'il était cher. Bon, voilà, bah, le déclencheur, c'est ce conflit. Alors, les anglo-saxons, vous avez pu voir ça à travers un certain nombre d'articles de presse qui sont diffusés, parlent de shock points maritimes mondiaux. Des passages étroits, des passages qui concentrent les flux commerciaux les plus importants du monde. Le détroit d'Ormuz est effectivement le numéro 1. Mais, comme on vient de le voir, notamment en ce qui concerne le pétrole et le gaz, on est par exemple, nous sommes donc sur 15% du pétrole mondial et 20% du GNL, donc 5% du gaz mondial. Alors ensuite, vous avez le détroit de Malacca, le canal de Suez, Bab-el-Mandeb, le canal de Panama, etc., etc., le détroit de Gibraltar, etc., etc. Donc, le cap de Bonne-Espérance. Donc, le détroit d'Ormuz, effectivement le numéro 1, mais c'est pas un numéro 1 écrasant. Mais ça compte. Il y en a 9 autres qui, eux, fonctionnent normalement. Voilà, donc je voulais commencer par ça. Alors maintenant, alerte rouge sur le plan technique, c'est parti. Je fais le tour d'horizon donc que je vous ai promis tout à l'heure. Je commence par le marché action américain. Donc là, il y a un signal qui est en train d'être donné. C'est ce que j'ai positionné sur mon graphique en fin de semaine dernière. Pourquoi est-ce que j'ai mis en évidence ce niveau? Ça, rappelez-vous, si vous reprenez mes talk gains depuis ces dernières semaines, je vous ai beaucoup expliqué que regardez le nuage journalier du système Ichimoku. Ici, c'était la guerre commerciale, cassure, correction. Ici, début du bear market de 2022, cassure, correction. Ici, crise sanitaire. Donc c'est un signal important qu'il fallait mettre sous haute surveillance. Là, ce que je vous montre, c'est en temps réel le contrat futur S&P 500. Le S&P 500 n'a pas encore ouvert, mais là, ce lundi matin, les contrats futurs cotent. Le futur est en baisse de 1,60, qui fait un gap. Donc déjà, un premier signal correctif a été donné vendredi ici. Donc nous sommes entrés dans une phase de correction sur le S&P 500. Il y a deux hypothèses, ça va dépendre bien sûr des fondamentaux, ça va dépendre de la géopolitique. Hypothèse numéro 1, minimum d'aller chercher les 6540 points, cette base-là. Le marché teste la moyenne mobile à 200 jours. Bon, la casser derrière, c'est davantage de correction. La reprendre, c'est confirmer la reprise. Regardez le V-bottom ici après les effets de la guerre commerciale. Peut-on revenir à l'ancien record historique? Là, c'est le facteur temps qui va jouer. Quand le marché juge qu'il y a un risque important, systémique, c'est un mot qui peut paraître fort, mais oui, un risque qui tend à devenir systémique, le marché revient à l'ancien record. Vous avez par exemple ici les effets de la guerre commerciale où le S&P 500 est revenu à l'ancien record avant de repartir. Alors bon, vous saviez où se trouve le S&P 500, dans le haut canal, les objectifs de vaccin sont faits, etc. Le marché est cher, les fondamentaux, la valorisation, ça, répété mille fois, donc je ne refais pas le truc. Il y avait donc cette possibilité, souvenez-vous, hein, du retour à l'ancien record historique, ça fait moins 10, moins 12. C'est une correction qui reste quand même dans les cordes. Je vous remonte simplement la crise sanitaire moins 36, le bear market de 2022 moins 27, les effets de la guerre commerciale moins 21. Donc revenir simplement à l'ancien record historique, c'est moins 12. Donc même ça, ça resterait sous contrôle. Donc en tout cas, ce matin, les contrats futurs US confirment le pré-signal bear qui a été donné vendredi, là. Et forcément derrière, donc là je vois minimum deux hypothèses. L'hypothèse la plus optimiste, c'est de tenir ça, sinon c'est d'aller chercher ici l'ancien record. On peut regarder avec ça le VIX, et là il y a vraiment un seuil majeur à surveiller, qui est ce seuil-là. Alors il y a eu déjà une hausse de 24% du VIX vendredi. Là, le marché teste ce niveau. La zone d'alerte est ici. Regardez ici, ça c'était les effets du Covid. Encore les effets donc de la guerre commerciale. Effectivement, là, il y a de l'upside. Casser ça, c'est minimum donc un S&P 500. Minimum un S&P 500 qui reviendrait donc en direction des 6500 points. Je me suis posé la question du positionnement institutionnel. Est-ce que les institutionnels commencent donc à se couvrir sur... Donc à augmenter leur exposition sur les puts. Donc à la fois shorter le contrat futur S&P 500 ou augmenter. Donc le temps que les données sont en train de se charger, j'imagine que le site du CME est pris d'assaut. Donc je continue, on reprendra ça tout à l'heure. Alors maintenant, pétrole et gaz. Oui, pétrole et gaz. Bon, bah écoutez, c'est là où se trouve. Alors j'avais fait ici une petite cartographie. Donc effectivement... Sur le pétrole, donc 102$ plus 12 quand j'enregistre la vidéo, la situation là, encore une fois, n'oubliez pas le facteur temps. Mais techniquement, nous sommes sur une envolée qui est similaire au déclenchement de la guerre en Ukraine, peut-être même supérieure. Ici, ce fut le déclenchement de la guerre en Ukraine. Nous revenons sur les mêmes niveaux. Sauf que là, le marché a quand même empilé deux gaps. Il a empilé deux gaps. Le gap haussier du lundi 2 mars et encore un gap haussier ce lundi 9 mars. Deux puissants gaps haussiers en lien avec les contrats handoff que je vous ai décrits donc dans l'introduction. Alors, au-dessus des 80$, alerte rouge. Pourquoi? Parce que lorsqu'on calcule la contribution du pétrole à l'inflation, c'est un taux de variation. C'est combien vaut le pétrole maintenant par rapport à ce qu'il valait en 2025. C'est ça un taux d'inflation, c'est un taux de variation annuel. Pourquoi je mets 80$? Parce que toute l'année 2025, le pétrole a passé toute l'année 2025 sous 80$. Ça, c'était 2025. Donc tout ce qui est au-dessus de 80$, il y a une contribution positive. Alors, le prix du pétrole n'est pas égal à l'inflation. Je serai plus précis mercredi dans le Fast and Forex. Donc déjà, là, au-dessus de 80, c'est une alerte rouge. Au-dessus de 92-94 dollars, oui, ça, alors choc inflationniste, si vous voulez, passer plusieurs semaines au-dessus des 100 dollars, c'est là aussi mathématique, il y aura un impact mathématique fort sur l'inflation au moins nominale. L'inflation sous-jacente exclut les éléments volatiles. Mais il y a aussi des effets indirects, l'effet indirect de la hausse du prix du pétrole. Donc il y aura quand même des effets sur l'inflation sous-jacente. Alors, au-dessus des 130 dollars, c'est aller chercher les 146 de 2008. Là, c'est l'actualité qui va décider ça. Pour l'instant, là, le pétrole, entre 94 et 130, est dans une zone de choc inflationniste. Effectivement, là, la situation se complique. Pétrole et gaz, le contrat de référence pour l'Europe. Alors, il est aussi coté à Londres, hein, mais c'est exactement la même chose. Le contrat de référence pour l'Europe, c'est le TTF. Donc, c'est coté à la Bourse d'Amsterdam, c'est le prix qui fait référence pour les pays de la zone euro. Et vous pouvez aussi regarder, donc, le contrat britannique. Bon, les choses peuvent devenir compliquées. Il y a un gros seuil de résistance ici. Regardez, donc là, c'est le contrat britannique. Ici, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Regardez à gauche, là. Déclenchement de la guerre en Ukraine. Sur le TTF, qui est le contrat pour la zone euro, pour l'Europe, quoi, pour le contrat pour la zone euro, voilà le déclenchement de la guerre, voilà le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. Vous voyez bien que si nous dépassons cette base technique, donc ce niveau des 56 sur le TTF, retenez surtout le TTF, ou le niveau des 150 sur le contrat britannique, c'est sortir par le haut d'une base d'accumulation là, de 3 ans. Techniquement, c'est aussi un signal d'alerte rouge. C'est aussi un signal d'alerte rouge sur le plan technique. Bon, les données du CME n'apparaissent pas, on s'en fiche. Je les avais observées avant. Il y a effectivement un début d'augmentation et des positions short. Donc à la fois des puts, des options puts et des positions short sur le contrat futur S&P 500. Mais les données sont en retard. Elles datent de mardi dernier. Donc bon, je verrai la prochaine mise à jour. Ça, le problème de ces données, c'est qu'elles ont une semaine de décalage. Donc là, au-dessus de ces niveaux-là, ce sont deux signaux d'alerte rouge technique. Il faudra être. Et la situation devient plus compliquée. Le dollar américain, eh bien, se reprend. Nous n'avons pas encore un signal de renversement haussier du dollar. Il est toujours dans la zone, vous le connaissez, je vous en parle mille fois, la latéralisation. C'est le niveau des 101-102 points. Il n'est pas encore dépassé. C'est ce niveau des 1,1495 sur l'euro-dollar. Casser 1,1495 sur l'euro-dollar, c'est un signal bearish majeur sur l'euro-dollar, bullish majeur sur le dollar US. Et là, ça ne peut que continuer d'agir en contrainte sur un certain nombre de bourses mondiales, et notamment sur les pays émergents. Donc pour le moment, au stade actuel, il n'y a pas... Vous avez donc clairement un signal d'alerte rouge sur le pétrole. Vous avez un signal, bon, ça c'est évident, vous avez le signal d'alerte rouge en train d'être donné sur le gaz. Sur le contrat futur S&P 500, donc, vous voyez, il y a un signal d'alerte rouge, je vous l'ai montré. On est en train d'activer les signaux similaires à ceux qu'on avait vus donc début du bear market de 2022, la crise sanitaire ou encore la guerre commerciale. Le dollar, lui, tant qu'il est sous les 101-102 points, ne donne pas encore de signal bullish majeur. Les taux d'intérêt se reprennent. Les taux d'intérêt se reprennent, le 10 ans américain, le 2 ans US. Pourquoi ? Parce que là, il faut faire attention. Alors, il y a la corrélation inversée entre le prix des obligations et les taux d'intérêt. Là, les taux remontent avec le prix de l'énergie. Pourquoi ? Les taux remontent avec le prix de l'énergie parce que, avec cette remontée du prix du pétrole, encore une fois, le facteur temps est inconnu. Mais si on se maintient au-dessus des 100 dollars, 2 mois, il y aura un impact. Si on se maintient, c'est moins d'un mois, il n'y a pas d'impact. Hein. Je serai précis dans le Fast and Forex, mais retenez ça. Si ça dure que 4 semaines, il n'y aura pas d'impact, ou quasiment rien. Là, on n'est pas encore à 4 semaines. Hein. Nous sommes à 10 jours. Mais, malgré tout, là, il y a d'abord un effet bullish sur les taux, donc bearish sur les obligations, parce que les taux rejoignent ce risque inflationniste. D'ailleurs, pas de baisse de taux anticipée de la Fed, maintenant, c'est pas avant le 16 septembre. Tout ça peut aller très vite. Mais en même temps, Les taux s'envolent pas non plus parce que vous avez eu vendredi dernier la publication du rapport NFP US faible. Le marché du travail américain faiblit à nouveau, le taux de chômage réaugmente. Il peut venir un moment, si vous voulez, où la baisse du marché action, si elle prend de l'ampleur, se traduira par un flight to quality et un déplacement des capitaux vers les obligations qui refera baisser les taux d'intérêt. Mais pour le moment, les taux progressent. Ils ont tenu des supports. Ils n'ont pas encore, eux, donné de signaux bullish majeurs. Ils n'ont pas dépassé de résistance. Ils ont tenu des supports. Donc, il n'y a pas encore d'alerte rouge sur les taux obligataires. L'alerte rouge, elle est surtout sur le marché action, là, sur le prix du pétrole. Je continue, donc gold et silver. Alors, là aussi, certains s'étonnent pourquoi l'or et l'argent ne montent pas plus que ça. D'ailleurs, là, j'enregistre la vidéo ce matin, l'or perd 1,40. Parce que l'or est haussier depuis très longtemps. Parce que, et là, j'en ai beaucoup parlé dans le Fast and Forex, un des moteurs principaux de la hausse de l'or depuis 2 ans a été le fait géopolitique. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est pas comme si, on va pas dire que l'or avait anticipé, mais l'or, price, l'incertitude géopolitique, l'Iran en faisait partie depuis des mois, voire même des années. Donc c'est simplement que c'est un marché suracheté. C'est un trade crudid, comme disent les anglo-saxons. Nous sommes sur des cibles techniques, en plus, mises en avant par un certain nombre des plus grandes banques mondiales, compris entre les 5000 et les $5,600. Donc, y a-t-il un impact technique? Alors, bien sûr, il n'y a pas d'impact baissier. C'est-à-dire que l'or reste en tendance haussière, il ne casse pas de support, il n'a pas cassé sa moyenne mobile à 50 jours depuis très longtemps, il n'a pas non plus dépassé de résistance. Par contre, l'argent, lui, il y a quand même encore, il y a de plus en plus de facteurs, notamment l'analyse technique des graphiques de long terme, qui tendent à dire que lui, il a fait son sommet à $121. Bon. Dans tous les cas, pour l'or et l'argent, ça les maintient donc à leur niveau actuel. Mais finalement, ceux qui sont à la recherche d'une couverture, le trade long or et argent est un trade crudit, suracheté, et d'autre part, le rebond du dollar leur est nocif. Donc il faut faire attention, pour se couvrir face à ce qui se passe actuel, je veux dire, pour se couvrir face à la situation actuelle, l'achat de l'or et l'argent n'est pas la meilleure option. Parce que ce sont des marchés surachetés, parce que le dollar rebondit, parce que les taux rebondissent. Une stratégie de couverture, bah, ça peut être d'acheter du pétrole, mais là aussi c'est volatile, c'est compliqué. Qu'est-ce que font les institutionnels? Voilà, ils shortent les contrats futurs d'indices, ils se hedgent comme ça. Ils se hedgent en shortant les contrats futurs d'indices. Ils peuvent acheter de la vol, ils peuvent acheter des puts, ils peuvent shorter certains secteurs. Alors, acheter des compagnies pétrolières, s'exposer au secteur de l'énergie, shorter les compagnies aériennes, acheter les acteurs de la défense, ou bien sûr, être en cash, augmenter la part du cash dans les portefeuilles. Ça, c'est la meilleure stratégie de couverture. Il n'y a pas d'endroit où se cacher, et notamment, il n'y a pas d'endroit où se cacher en Asie. Alors, le marché action chinois tient relativement bien pour le moment, là aussi. C'est pas le cas, par exemple, de la bourse de Corée. C'est pas le cas de la bourse de Corée. Je vous montre le Kospi. Alors, pourquoi? Parce que la bourse de Corée, elle fait moins 6, là. Elle progressait parce qu'il y a de la tech, parce que les taux de la banque centrale sont très faibles. La chose, c'est que la Corée du Sud, c'est 60% de son pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Donc, mécaniquement, hausse de l'inflation apportée, derrière la banque centrale devra remonter les taux, ça met la pression sur l'indice. Mais là aussi, on ne sait pas si elle le fera. C'est le facteur temps qui est inconnu. Il y a une différence entre 4 semaines, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et ça, personne ne le sait. Il fallait un prétexte, techniquement parlant. De toute façon, il y avait des dives. C'était suracheté. C'était une bulle de la tech. Donc, là aussi, est-ce qu'on parle d'effondrement de la bourse de Corée parce qu'elle fait moins 6? Regardez le graphique weekly. Impulsion rend impulsion. Finalement, là, on ne fait que retracer. On ne casse même pas de support majeur. Il fallait bien... Tôt ou tard, arriverait un déclencheur. Donc, là aussi, c'est pas un krach boursier des actions coréennes. C'est une correction d'une bulle. Voilà. Et effectivement, c'est déclenché, bien sûr, par ce fait géopolitique. Le marché action chinois, lui, ne casse pas de support, que ce soit la bourse de Shanghai ou la bourse de Shenzhen, il n'y a pas d'alerte rouge. Il n'y a pas d'alerte rouge sur le marché actions chinois. Alors ensuite, bien sûr, vous avez les secteurs, les secteurs critiques. Moi, j'en surveille trois. Je voulais déjà vous montrer quelque chose qui est intéressant. C'est le secteur de l'énergie. Mais d'un point de vue technique, le secteur de l'énergie avait donné son signal en janvier. Alors, encore une fois, le secteur de l'énergie a probablement anticipé. Personne n'avait anticipé que le conflit éclaterait de manière directe le 28 février. Mais d'un point de vue technique, le signal bullish a été donné donc en janvier sur le secteur S&P 500 énergie. Donc là, pour le coup, y a-t-il un impact technique ? C'est une tendance haussière qui se poursuit. C'est une tendance haussière qui se poursuit. Dans les stratégies de hedge, il y a bien sûr être en cash, il y a shorter les indices boursiers. Et puis il y a des expositions qui sont plus spéculatives, parce que là, le prix du pétrole va bien sûr avoir une dimension spéculative. Un levier direct sur le prix du pétrole, peut-être ce sont des compagnies pétrolières, les compagnies qui extraient et qui vendent le pétrole, et notamment le pétrole qui est le plus cher, vous savez, le pétrole notamment qui est issu de la fragmentation du schiste. Donc le pétrole de schiste. Bon, il y a des compagnies comme ça qui peuvent être, je vais vous en montrer par exemple une qui est intéressante, elle s'appelle Vista Energy. Où est-ce que je l'ai mis, Vista? Vista Energy, c'est Vist. Je vais vous la montrer. Ah bah attendez, je l'avais. Voilà, c'est une compagnie argentine. Typiquement, une compagnie comme Vist. Je l'ai mise ici. Voilà, regardez par exemple. Voilà. Une compagnie comme Vist. Bon. Belle tendance haussière. Et des compagnies comme Vista Energy sont des compagnies en fait qui extraient et qui revendent directement au prix du marché. Ça va très vite. C'est le pétrole qui est le plus rapide à extraire. Là, ils augmentent les volumes. Et pourquoi ces compagnies sont un levier direct sur le prix du pétrole? Parce que, vous savez, c'est le pétrole qui est le plus cher à extraire. Donc, si le prix du marché explose, c'est à ce moment-là qu'ils font plus de volume, parce que c'est plus rentable pour eux. Donc, bien sûr que s'exposer au secteur. Alors, il y a une différence entre des compagnies comme ça, qui sont des petites compagnies indépendantes, par rapport à des géantes comme Total et autres. Ça peut être effectivement une façon d'avoir du levier direct sur le prix du pétrole. Ok, alors, je continue. Donc, aujourd'hui, voilà, bah, ça y est, le VIX, plus 17. Là, le VIX entre dans cette zone. Il y a une cassure technique, il y a une alerte rouge sur le VIX. Une alerte rouge sur le VIX qui est similaire. Alors, attention, hein. Là, vous avez la crise du Covid, la guerre commerciale. Voilà où nous sommes. Mais nous entrons dans une zone, effectivement, où là, le VIX nous dit que les institutionnels augmentent leur stratégie de couverture, leur exposition aux options puts. Nous ne sommes pas encore dans un régime de volatilité qui atteint ce que fut le choc lié à la crise sanitaire, mais il y a une alerte rouge, oui, il y a une alerte rouge sur le plan technique. Donc, alors, il y a d'autres secteurs, il y a tellement de choses, si vous voulez regarder, les choses vont tellement vite, mais il y a deux secteurs, trois secteurs, donc le secteur des compagnies pétrolières, voilà, ok, très bien. Les secteurs, je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma vidéo top 10 des baromètres à suivre. Bon, l'aérien se fait exploser. Là, c'est pareil. Les compagnies aériennes sont en train de tomber sur leur plus bas. Ces compagnies aériennes, notamment européennes, Lufthansa et Air France, je vais les surveiller parce qu'à un moment, ce sont les premières à stabiliser quand il y aura une amélioration du contexte géopolitique. Bien sûr, vous avez les tendances haussières qui sont pas non plus nouvelles, relancées, entretenues des acteurs majeurs de la défense en Europe aux États-Unis. Lockheed Martin, je vous mets tous les codes ici. Rheinmetall dans le DAX, Daimler Dynamics, RTX, NOC, BA, LDO, AM, R, BA, HO, SAF. Je vous mets alors, bien sûr, les compagnies pétrolières, mais voilà. Et là, vous avez du vert partout sur les acteurs de la défense, du vert sur les compagnies pétrolières. Alors, ensuite, il faut regarder du côté des indicateurs du transport, des indicateurs du transport maritime. Je vous ai présenté la semaine dernière deux baromètres. Il y en a notamment un que je mets sous haute surveillance. Le Baltic Dry Index, vous le connaissez. Là, j'en mets un autre sous surveillance, qui est le Shanghai Container Freight Index. Et là, il commence à remonter. Alors, on n'est pas encore sur une zone de choc, mais le prix du commerce maritime commence à se tendre. Et là, bien sûr, derrière, il y a tous les effets indirects sur tous les produits industriels qui circulent et agricoles. Bon, c'est là où l'inflation peut généraliser. Pour le moment, les choses restent sous contrôle, mais il y a un début de hausse. Il y a un début de hausse. Et ça, c'est le transport maritime. La Chine, hein, premier importateur mondial, premier commerçant du monde. C'est pourquoi je le suis en priorité. Vous l'avez sur TradingView ici. Le Container Freight Index, le Shanghai. En fait, c'est coté à la bourse de Shanghai. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte rouge, mais il y a un début de quantification haussière. Dans les baromètres majeurs à regarder, bien sûr, les bourses du Moyen-Orient. Vous avez notamment la bourse du Qatar. Pourquoi le Qatar? Pourquoi le Qatar? Le Qatar, eux, ils sont bloqués. C'est 100% du GNL, le Qatar, qui passe par Hormuz. 100% du GNL qui passe par Hormuz. Le Qatar, attention, situation technique. Pour l'instant, ça va, mais en situation technique d'un potentiel double top ici en weekly, si on casse ce niveau, ça va être compliqué. Bon, logiquement, ce niveau devrait casser sur la bourse du Qatar, sauf miracle. La bourse d'Égypte, parce que c'est la première market cap. Bon, la bourse de Tel Aviv, elle continue son avancée. Alors, la bourse d'Arabie Saoudite, elle tient choc. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite, elle peut encore exporter via les pipelines les deux tiers, les trois quarts de son pétrole, ou au moins la moitié. Il y a un pipeline qui est à 5 millions de barils jour, qui est le pipeline de l'Ouest. Donc profite, bien sûr, la compagnie pétrolière Aramco profite de la hausse du prix du pétrole. L'OTAN finira par jouer contre l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'alerte rouge là, mais casser ce niveau, ce serait vraiment économiquement la région est bloquée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a encore des choses qui restent complètement sous contrôle. Voilà, chers amis, écoutez, pour le tour d'horizon technique, alerte rouge sur le plan technique, c'est tout pour ce matin. Vous voyez qu'il y a quand même des nuances. Mais effectivement, là, il y a des signaux d'alerte qui sont donnés. Et on va voir comment ça évolue tout au long de la semaine. Voilà, j'espère que cet instantané vous a plu. Merci à toutes et à tous pour début de semaine.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.